truest of dragons. Lend me thy strength.
Hello les gens, c'est Ludic, nouvelle vidéo lore Elden Ring aujourd'hui, et si à la base le sujet de Godric et de Voilourage ne me passionnait pas, je dois avouer qu'après quelques heures de recherche, je suis tombé totalement fan de ce sujet. J'espère que vous allez passer un bon moment. Si vous ne souhaitez pas louper la prochaine vidéo lore qui sera, je pense, celle sur Mikaela, pensez surtout à vous abonner, à activer la cloche, et je vous laisse avec l'épisode 9 du lore Elden Ring. Vous connaissez en grande majorité le présent de Voilourage, de par ce que vous en avez vu au cours de votre première partie. Mais que savez-vous du passé de Voilourage? Non, je ne parle pas d'un passé proche pendant lequel Godric régnait sur son château, mais bien d'un passé plus ancien, aux origines même de l'Entre-Terre. Qui habitait alors ces terres? D'où peut bien provenir le nom de Voilourage? Eh bien selon moi, à l'époque où les dragons régnaient déjà en maître sur l'Entre-Terre, avec à leur tête Placidus Sax, premier seigneur d'Elden, Voilourage était alors la place forte des Faucons des Tempêtes, des créatures majestueuses avec à leur tête le plus puissant d'entre eux, le roi Faucon des Tempêtes. Vous croiserez encore lors de votre exploration certains de ces Faucons, qui font certainement partie des ennemis de base vous ayant donné le plus de fil à retordre, armés de lames sur leurs pattes. Il y a fort à parier que ce sont les soldats de Voilourage qui ont fixé ces outils, de manière à faire de ces faucons une forte ligne de défense du château. Si vous les observez en détail, vous apercevez des chaînes dans leur dos, et un mécanisme plutôt sophistiqué au niveau de leurs pattes, ce qui atteste que s'ils sont encore admis ici, c'est en tant que prisonniers. J'aime à penser que dans ce passé lointain, ce sont ces faucons qui ont donné son nom à Voilourage, Stormveil en anglais, un nom qui reprend à la fois le champ lexical du vol et de la tempête. J'aime aussi croire que c'est la faculté de ces faucons à maîtriser les tempêtes qui leur permettait de tenir les puissants dragons à l'écart de leur territoire. Vous savez que j'aime maintenant amener un peu plus d'analyse et de symbolique dans mes vidéos, et la symbolique du faucon a de quoi ne pas nous laisser de marbre. Dans la mythologie égyptienne, le faucon est associé à un symbole de pouvoir, de par sa force et sa beauté. Il est incarné par Horus, dont les deux yeux représentent le soleil et la lune. Mais il est aussi un symbole solaire et de puissance, dans la mythologie inca. Enfin, au Moyen-Âge, le faucon représente la victoire du principe mâle, diurne et solaire, face au principe femelle, nocturne et lunaire. Difficile de ne pas faire d'analogie immédiate avec Elden Ring, l'Ordre d'Or et Godfrey représentant le soleil et cette supériorité mâle, là où Rani et les Nocriens vont représenter le principe femelle, nocturne et lunaire. Enfin, comment ne pas penser à Berserk, source d'inspiration principale de Miyazaki, et à sa fameuse troupe du faucon, créée par le grand Griffith. Vous êtes alors en droit de me demander, d'où peut bien me provenir cette théorie? Eh bien tout simplement d'une cendre de guerre que vous récupérerez si vous retournez dans la zone de départ, la chapelle de l'Anticipation, tout proche du château de Voilourage. On y trouve les cendres du roi Faucon des Tempêtes. On y lit qu'il s'agissait d'un faucon considéré comme souverain par ses congénères, à une époque où les vents de Voilourage étaient d'une violence sans égale. un antique monarque bien trop orgueilleux pour répondre à une quelconque invocation. Mais ce n'est qu'un indice parmi tant d'autres. On pourrait également évoquer les cendres de Dine, le faucon des tempêtes, un faucon féroce qui servit loyalement l'ancien roi de Voile-Orage il y a bien longtemps, lorsque la véritable tempête faisait rage. Que dire du bouclier en bois aquilin, frappé de l'emblème du faucon, des plumes de faucon des tempêtes, ou des pattes de volaille, objet si important et qui n'est pas sans rappeler l'apparence d'une patte de faucon. Tout Voile-Orage transpire l'héritage de ces faucons si puissants, que ce soit par les emblèmes présents sur les remparts, les sculptures sur les arcs-boutants, ou même un tableau représentant potentiellement le roi des tempêtes. Tout ceci me laisse à penser que même après l'avènement de l'Ordre d'Or, ces majestueux rapaces étaient encore admirés, et un symbole de puissance. Ce n'est qu'après l'arrivée de Godric qu'ils auraient alors commencé à être maltraités. Il est intéressant de constater que dans les temps les plus anciens de l'Entre-Terre, les animaux pouvaient être considérés à l'égal de l'homme. On pourrait même presque parler de règne animal, les dragons, les cerfs ancestraux vénérés par leurs disciples, les faucons des tempêtes. Et comment ne pas avoir une pensée pour les lions féroces armés de lames courbées que vous croisez à Voile-Orage, en Caelid ou à Solcastel, et qui font certainement partie du même peuple que Seroch, la bête régente désormais au service de Godfrey. Après l'avènement de l'Arbre-Monde, l'arrivée au pouvoir de Godfrey et une guerre titanesque contre les dragons, ces animaux ont alors dû rendre les armes et accepter de se mettre au service de l'homme, la pire créature qui soit. Comme je vous le disais, l'avènement de l'Arbre-Monde et la montée au pouvoir de Marika et Godfrey bousculèrent les cartes en Entre-Terre. Les faucons des tempêtes n'ont pas échappé à la règle, sûrement vaincus et devant accepter de voir s'ériger sur leur territoire un immense château, celui-là même que vous explorez au cours de votre aventure. Si on peut penser que pendant un temps du moins, ce château servit de place forte à un personnage comme Godfrey ou à son fils Godwin, il a rapidement été délaissé, pour finalement devenir, des années plus tard, le bastion d'un personnage nimbé de mystère et symbole de déchéance, Godric. Les origines de Godric ont longtemps été sujets à discussion. Kenneth Haight, qui le considère comme responsable de tous les malheurs de l'Entre-Terre, parle de lui comme étant un fils direct de Godfrey et Marika. Mais on peut clairement remettre sa parole en doute, d'une part car il peut s'agir d'un abus de langage, et d'autre part car Kenneth n'a a priori aucune raison de connaître les véritables origines de Godric. Il en est autrement quand il s'agit de l'augure des deux doigts, qui nous présente Godric comme étant un parent lointain de Godfrey, au sang divin fortement dilué, qualifié comme étant le chétif de la famille. C'est en cela que Godfrey peut être considéré comme un demi-dieu de bas étage, chose dont il souffrira toute sa vie. Comment Godric est-il alors entré en possession de l'une des runes majeures les plus puissantes de l'Entre-Terre? L'a-t-il obtenu de naissance ou l'a-t-il obtenu plus tard par la ruse? Difficile à dire. Autre élément très intéressant, savez-vous que Godric possède en réalité un frère jumeau du nom de Godefroy le Greffé? Vous aurez l'occasion de croiser ce personnage lors de votre arrivée à Leyndell, où il se trouve enfermé dans une geôle éternelle. Si on s'intéresse à la cendre de Christophe, chevalier des dragons anciens, on y apprend que suite à la première défense de Leyndell, c'est lui qui s'est chargé de la capture de Godefroy. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque la première défense de Leyndell? Pour moi, il s'agit forcément de la toute première attaque des dragons sur la capitale par Grand Saxe, dont la ville porte encore les stigmates. Il est alors légitime de se demander pourquoi un chevalier de l'Ordre d'Or prendrait en chasse un héritier de la lignée de Godfrey. C'est ici que cela devient intéressant, car je pense que Godric et son jumeau Godefroy ont tous deux décidé de trahir l'Ordre d'Or et de se rebeller en s'unissant aux dragons. C'est pour cette raison que Godefroy aurait été enfermé, tandis que Godric, lui, aurait réussi à s'échapper de la capitale après la défaite des dragons. Cela expliquerait également l'admiration sans faille que Godric semble vouer aux dragons, admiration dont nous joueurs sommes directement les témoins lors de la première cinématique mettant en scène le personnage. Cette théorie sur la trahison des jumeaux Godefroy et Godric et leur union aux dragons n'est qu'une interprétation de ma part, et il est tout à fait possible que ce soit seulement à cause de leur pratique de la greffe qu'ils aient été bannis de l'Ordre d'Or. De l'aveu même de Kenneth Haight, on apprend que Godric aurait alors utilisé le voile mimétique pour se dissimuler au sein de la gente féminine lors de sa fuite, et que c'est ainsi qu'il échappa au courroux de Radahn. Godric prit alors refuge au château de Voile-Orage et s'y établit, sa réputation étant alors au plus bas. Traître, banni, considéré comme le plus faible de la lignée dorée, Godric ne pourra jamais se détacher de cette image, et conservera en lui une culpabilité inhérente à sa trahison et à l'abandon de son frère jumeau. Cette honte ne fera que s'amplifier lorsqu'il se fera humilier au combat par Malenia, qui lui tomba dessus lors de son grand voyage vers le sud et vers Radahn. Gardez bien en tête cette notion de honte et de culpabilité, car elle prendra tout son sens dans la suite de notre récit. Je précise également que le fait de considérer Godfroy comme le frère jumeau de Godric est une libre interprétation de ma part, mais qui prend selon moi tout son sens quand on voit la forte propension de la lignée dorée à générer des jumeaux, Malenia et Mikaela, Mog et Morgoth. Cela, plus la ressemblance entre les deux personnages, suffit amplement à me convaincre, et j'espère que vous aussi. Une fois installé à Voile-Orage, Godric commença alors à y instaurer une pratique qu'il exerce depuis quelques années déjà, l'art de la greffe. Cette pratique consiste à se greffer des membres d'autres espèces dans l'optique d'accumuler de plus en plus de puissance. Membres d'humains, de trolls ou encore de dragons, peu importe tant qu'ils permettent à Godric de surpasser sa condition de faible demi-dieu. Une pratique qui colle parfaitement au personnage, mal dans sa peau, complexé de n'être que le rejeton d'une famille si glorieuse à la base. Est-ce cela qui a inspiré la pitié d'un personnage comme Morgoth, roi réprouvé, lui aussi rejeté à la naissance? Il aurait alors décidé d'envoyer à Godric une projection de lui-même, Margit, pour protéger l'entrée de Voile-Orage. Si vous continuez à vous balader dans le château, vous croiserez les témoignages de cet art macabre qu'était la greffe. Des esclaves portant encore leur collier autour du cou, des trolls pendus par les jambes, ou encore une pièce dont pendent du plafond ce qu'on imagine être des membres de sans éclat. Au fond de cette pièce se trouve un immense portrait de Godfrey, accompagné de son fidèle Séroche. Pourquoi Godric a-t-il laissé cet immense tableau trôner là? Est-ce pour se rappeler sa faiblesse, sa condition face à son glorieux ancêtre, qu'il vénérait certainement par le passé, et qui hante encore les couloirs de Voile-Orage? La hache que manie Godric, ainsi que la tenue de ses chevaliers, confirme cette idée. Sur la description de la tunique, on peut lire qu'elle représente le lointain arbre-monde et la bête régente Séroche, symbole de la lignée d'or. Sur l'armure de chevalier se trouve un blason de hache à double lame, emblème de la lignée d'or. Enfin, la hache est frappée d'un blason bestial représentant la force de Godfrey. Godric était donc en admiration devant Godfrey et la lignée d'or, avant de les trahir et de rejeter ses origines afin de tracer son propre chemin. L'un des personnages directement liés à la greffe de Godric se nomme Rodérica, que vous croisez juste avant l'entrée du château. D'après sa tenue, Rodérica est une expatriée de famille royale, invitée à partir en solitaire vers des contrées lointaines sans but précis, une stratégie visant à éloigner les indésirables de la cour. Rodérica fut alors capturée, avec d'autres sans éclat, pour être sacrifiée à la greffe de Godric et devenir un membre à part entière de l'araignée. Mais Rodérica parvint à y échapper, non sans abandonner ses fidèles compagnons, et elle en gardera une éternelle culpabilité. Voyez les liens immédiats que l'on peut faire entre le personnage de Rodérica et Godric, deux exilés, deux bannis, chassés par une famille royale et dévorés par leur propre culpabilité. Il est grand temps d'évoquer toute la symbolique autour de cette culpabilité et sa manifestation physique plus que présente en entre-terre, les ronces. Oh là, j'en vois certains parmi vous qui sont en train de regarder cette vidéo sans s'être abonné. Alors si vous voulez pas que je vous envoie un des bras de Godric, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. Allez, bon visionnage. Au cours de votre exploration de Voile-Orage, avez-vous prêté attention aux nombreuses ronces qui parsèment les remparts du château, qui les dévorent, des racines épineuses dévoilées par ce qu'on peut imaginer être des tirs de boulets de canon du temps de l'éclatement. La culpabilité, l'exil, le bannissement, des thèmes assez récurrents dans Elden Ring et tout particulièrement à Voile-Orage, au travers de personnages comme Godric ou Roderica, mais aussi via les nombreux guerriers que vous croiserez dans le château, appelés chevaliers exilés. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez rapidement que ces thèmes sont toujours associés à une manifestation bien précise dans Elden Ring, comme une malédiction qui se propage, celle des ronces. C'est le cas notamment pour Elémer du Roncier, un homme originaire de la contrée lointaine d'Eocade, tenu coupable et destiné à être exécuté au Bastionbre par la famille Tourbier. Mais vous verrez que ces ronces peuvent prendre différentes formes dans le monde d'Elden Ring, à l'image du feu, qui peut être un feu sanguin, un feu noir ou de glace. Ainsi, les ronces d'Elémer prennent une teinte sanguine, les reliant à la mer informe. Je ne veux pas trop entrer dans les détails ici, mais j'y reviendrai plus précisément dans une future vidéo. En termes de symbolique, la dimension christique est évidemment à prendre en compte, ne serait-ce que par la couronne d'épines du Christ, ou les fameux cilices, des successions d'épines de fer que les prêtres utilisaient pour absoudre leurs péchés. Dans la mythologie grecque, la ronce était appelée sang des titans, car supposée provenir du sang répandu par ces derniers lors de leur lutte contre les divinités. La ronce est également symbole d'envie et d'injustice, un fil qui rampe pour étouffer tout ce qui l'entoure, comme étouffer sa culpabilité par exemple. Au niveau végétal, la ronce joue un rôle de protection, elle est supposée préparer l'arrivée imminente de l'arbre. Concentrons-nous pour l'instant sur les ronces de Voile-Orage, présentes dans l'environnement, mais pas seulement. Si vous observez attentivement le cadavre des chevaliers exilés dont je vous parlais, vous remarquerez de fines ronces dépassant de sous leur tunique. Sont-elles une extériorisation, une manifestation de la culpabilité que ressentent Godric et ses soldats, une caractérisation de leur nature de banni, d'exilé? Peut-on faire le parallèle avec les cornes qui poussent sur le corps des réprouvés et qui sont une manifestation du creuset primordial? En lisant la description du bouclier de ces mêmes chevaliers, bouclier couvert de ronces, on apprend que cette affliction pourrait être due à la malédiction de la greffe, tandis que d'autres suspectent une cause bien plus sinistre, tapis dans les entrailles de la forteresse. Une malédiction qui prend son origine dans les tréfonds de Voile-Orage. Il est grand temps de parler du prince de la mort, Godwin. Au détour d'un couloir de Voile-Orage, d'une porte dérobée ou d'une chute malencontreuse, vous êtes peut-être tombé sur un visage incrusté dans la pierre, tout droit sorti du mythe de Cthulhu. Ce visage, vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit en partie de la nouvelle apparence de Godwin, le prince de la mort. Pour rappel, lors de la nuit des couteaux noirs, Godwin le Doré, fils de Marika et Godfrey, fut tué. Mais alors que son esprit s'envola, son corps lui perdura, et commença à fusionner avec les racines de l'arbre-monde et à dissiper une malédiction du nom de Malmort. Le corps de Godwin prit alors une apparence pour le moins surprenante, avec une tête de poulpe plus ou moins dissimulée, un corps de sirène et sa chevelure blonde toujours traînante. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite fortement à aller consulter la vidéo de Zully the Witch sur le sujet, ou celle de Alt 236, pour comprendre à quel point les créatures aquatiques imprègnent le monde d'Elden Ring. Quoi qu'il en soit, Godwin commença à infecter toutes les racines de l'arbre-monde. Ce sont notamment ces mêmes racines que vous croisez à la fin de chaque donjon, et c'est d'ailleurs pour cela que vous y trouvez souvent des mortes fleurs. Une question se pose alors. Comment et pourquoi Godwin, dont le corps repose sous Leyndell dans les profondeurs de fond de racines, peut-il également se trouver en partie, ou du moins en réplique, dans les profondeurs de Voile-Orage? Ma théorie est que Godwin serait intimement lié à Voile-Orage, et qu'il en était potentiellement le propriétaire. Ceci est appuyé par la tenue des chevaliers bannis, et leur casque arborant une représentation de dragon, qu'on pourrait associer à Fortissax. On trouve également à Voile-Orage des bannières rouges aux bordures dorées que l'on pourrait associer à Godwin. Ainsi, le prince de la mort aurait cherché à rejoindre Voile-Orage et pour y parvenir, à en infecter les ronces. Si Godwin est en mesure d'infecter toutes les racines de l'arbre-monde, pourquoi ne pourrait-il pas infecter les ronces de voile orage qui ne sont rien d'autre que des racines pourvues d'épines? Le prince de la mort se serait alors servi de la culpabilité inhérente à Godric et à voile orage pour y développer sa malédiction et s'y étendre. Pour rappel, juste avant d'arriver au cadavre de Godwin, vous croisez un esprit d'arbre ulcéreux, symbole ultime de la pourriture des racines de l'arbre-monde. Ulcère, racine, ronce, autant de termes liés à la pourriture de l'arbre par Godwin, et si vous avez encore un doute sur cette théorie, rappelez-vous juste que lorsque vous êtes contaminé par la Malmort et en mourrez, vous êtes alors transpercé de toutes parts par des ronces. Vous pensez que j'en ai peut-être fini avec cette notion de culpabilité, mais pas de suite puisqu'il me reste à évoquer un personnage qui rejoint parfaitement cette idée. Il s'agit de Gostok, le gardien des portes.
You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. Guards don't know about it. You'll breach the castle undetected.
Vous croisez Gostok pour la première fois à l'entrée de Voile Orage, où il vous proposera soit de vous ouvrir la porte principale, au risque de vous faire trépaner par l'un des nombreux arbalétriers, ou alors de prendre un chemin détourné. Gostok, qui est un esclave de longue date de Godric, cache en réalité bien son jeu. Son objectif est de vous délester à chacune de vos morts d'une partie de vos runes. C'est d'ailleurs lui qui vous enferme dans une pièce avec un chevalier banni, son rire machiavélique résonnant au loin. Si vous êtes attentif au cours de votre exploration de Voile Orage et que vous revenez sur vos pas, vous aurez peut-être l'occasion de constater que Gostok vous suit, toujours caché non loin de votre position. Une fois Godric vaincu, vous retrouverez Gostok en train de piétiner son cadavre, fier de tenir sa vengeance. Le jeu brise alors le quatrième mur et vous met face à un choix sur la culpabilité même de Gostok. Mérite-t-il de mourir, ce qui vous permettrait de récupérer vos runes chèrement acquises, ou alors mérite-t-il de vivre au vu du calvaire qu'il a dû subir toutes ces longues années? C'est une des forces de From Software de réussir à amener toute cette symbolique autour de la culpabilité pour finalement vous mettre face à un choix qui explore cette notion et ses contradictions.
Oh, hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh?
Nous arrivons presque au bout de ce récit, et si à la base le sujet de Voile Orage ne m'inspirait pas beaucoup, je dois avouer qu'après quelques heures de recherche, il m'a totalement passionné. Mais il nous reste à évoquer l'avenir de Voile Orage. Que deviendra ce château une fois que Godric sera vaincu? Restera-t-il à l'abandon ou est-il promis à un futur plus glorieux? Et si je vous disais que vous avez l'occasion de boucler la boucle? Vous vous souvenez des Faucons des Tempêtes que j'évoquais en début de vidéo? Eh bien si vous remettez à Néphilidou les cendres du roi Faucon des Tempêtes, elle reprendra du poil de la bête et décidera de se rendre au château de Voile Orage pour y prendre la succession de Godric en tant que régente, et devenir la légitime souveraine de Nécrolimbe aux côtés de Kenneth et Gostok. Une symbolique absolument magnifique pour une descendante de la lignée de Godfrey, qui devient ainsi l'héritière des souvenirs des Faucons des Tempêtes, première créature à avoir jamais foulé le sol de Voile Orage.